bretonnes, ainsi qu'à celles qui sont prénommées Anne. Donc bonne fête à toutes. Vous avez pu voir qu'en votre honneur, on a eu un beau cantique de sortie à la messe. Ils ont été très gentils, les séminaristes. C'est pas moi qui leur avais commandé ce cantique. Sainte Anne aux bonnes mères, un cantique que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je vais faire la conférence cet après-midi sur notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'ordre des conférences pour l'instant, donc après l'introduction d'hier, vous avez eu une conférence ce matin sur Dieu, Dieu qu'on peut atteindre par la raison, par la réflexion. Donc, en théologie, on appelle ça donc le Deo Uno, Dieu un. Ensuite, le sermon que vous avez eu ensuite pendant la messe avec M. l'abbé Baudot portait sur le Dieu trinitaire. Donc, Dieu dans sa vie intime, donc Dieu qui est connu dans sa vie intime par la foi. Donc, seule la révélation donc de Dieu qui s'est fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, seuls ceux qui ont la foi peuvent adhérer à ces vérités que Dieu a voulu nous révéler. Ce sont des vérités donc, qui dépassent notre raison, qui sont de l'ordre surnaturel. Et donc ces premières conférences portaient sur Dieu parce que le but de la retraite, c'est de vous rapprocher de Dieu. Vous êtes venu ici pour cela, pour vivre plus près du bon Dieu. Donc c'est très important dans une retraite de se dire, je ne suis pas là avant tout pour me regarder, mais pour regarder Dieu. Maintenant, bien sûr qu'on regarde Dieu en voyant Dieu, enfin autant qu'on peut le voir, bien sûr avec l'œil de la foi, on l'admire, on l'apprécie, on le bénit, on le loue, on l'aime. Et puis ensuite, après, en revenant de fait sur nous-mêmes, eh bien, on constate qu'on a du mal à donner à Dieu toute la place qu'il mérite. C'était la conférence qu'on a eue, que vous avez entendue à table, Mgr Lefebvre, sur la vie spirituelle, où il disait que malheureusement, on vit trop souvent dans l'illusion. Et donc, pour mieux comprendre aussi notre façon de réagir, pour nous qui sommes des humains, il est important de connaître, reconnaître notre état de pécheur, conséquence du péché originel, qui a été donc racheté par notre Seigneur, mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons hérité d'une nature qui reste déchue, donc la nature qu'on a reçue d'Adam. Alors nous avons à la fois en nous la cohabitation de ce vieil homme, mais en même temps de l'homme nouveau aussi par le baptême. Donc le baptême a rééquilibré en partie, heureusement, notre nature, en la surélevant même, en l'élevant à l'ordre surnaturel, mais il reste en nous cette cohabitation de deux hommes, au point que saint Paul pouvait dire « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Et ça, c'est le problème, si vous voulez, du combat spirituel qu'on va avoir toute notre vie entre la partie négative et la partie positive qu'il y a en nous. Et donc, il est important, bien sûr, de savoir ce qui s'est passé pour comprendre l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que l'homme soit bon par nature. L'homme, tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas sorti de la main de Dieu de cette manière-là. L'homme était sorti beaucoup plus beau, bien sûr, plus parfait, de la main du bon Dieu. Mais hélas, ayant fait un mauvais usage de sa liberté, avec Adam et Ève puis Adam, l'homme s'est retrouvé dans la panade, entre guillemets, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que Adam avait commis ce péché en tant que chef de l'humanité, c'est pourquoi toute l'humanité était incluse en lui au moment de son péché. Mais ensuite, de la même manière qu'Adam a agi en tant que chef de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, et c'est de lui dont je vais parler maintenant, est venu, merci mon Dieu, racheter ce péché originel et aussi tous nos péchés personnels. Et donc il nous a donné maintenant les moyens de pouvoir retrouver la route du ciel. Nous sommes sur la terre dans le but de conquérir le ciel qui est si beau. Et pour arriver à ce ciel, nous avons besoin d'un sauveur. Parce que justement nous sommes pécheurs. Et dans la religion justement catholique, si vous voulez, tous les dogmes sont liés les uns aux autres. Oui. Si on refuse le péché originel, on va se dire, mais s'il n'y a pas eu de péché originel, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre, voyez? Alors que si on reconnaît qu'il y a le péché originel, on comprend que d'abord, on se comprend mieux nous-mêmes, on comprend bien, hélas, pourquoi parfois nous faisons le mal, trop souvent. Et en même temps aussi, on voit qu'on a vraiment besoin d'un sauveur. Et donc, ce sauveur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout d'abord, par rapport à notre Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, en 50 minutes, je ne pourrais pas épuiser ce grand mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'un des aspects importants pour nous, c'est pour admirer le plan de Dieu et adorer notre Seigneur et le remercier de tout notre cœur, il importe eh bien, de nous dire que, en soi, bien, le bon Dieu aurait très bien pu nous laisser dans l'état du péché. Il n'était pas obligé, si vous voulez, de venir nous racheter. Donc, il faut se dire que la venue en notre Seigneur, en ce monde, de notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde, est un don. Donc un don gratuit. Et donc on doit admirer le bon Dieu eh bien, d'avoir fait cela pour nous, quoi. Il aurait très bien pu nous laisser dans le péché, malheureusement. Et Saint Louis-Marie Grignion de Montfort eh bien, a essayé de, enfin, pour aider les fidèles, ses propres fidèles, à prendre conscience de cette beauté, de ce don gratuit de Dieu, il a essayé d'imaginer un dialogue qui aurait lieu entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Je ne dis pas que ça se soit passé comme ça. Mais d'une certaine manière, eh bien, ça exprime bien cette gratuité du plan de Dieu. Enfin, cet amour intense de Dieu qui a décidé donc de venir nous racheter. Donc Dieu le Père va représenter la justice de Dieu et Dieu le Fils représente la miséricorde. Et donc il y a comme un débat qui serait déroulé au paradis entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Père représentant la justice, disant, eh bien, l'homme a péché, eh bien, il doit être damné. Il n'y a pas eu de miséricorde pour les anges, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour les hommes. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ, enfin, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, qui va dire, oui, mais en fait, l'homme, il est quand même d'un niveau inférieur à l'ange, donc il est quand même plus faible. Et donc il va trouver des arguments pour essayer eh bien, de faire pencher la balance du côté de la miséricorde. Et puis ensuite, après, on va voir ce qui va se passer. Mais donc, je vous dis simplement les arguments qui sont avancés par l'un et par l'autre. Donc, d'abord, les arguments de la miséricorde, d'ailleurs, c'est ce qu'il les met en premier. Donc, il dit ceci. Saint Louis-Marie de Montfort, donc en représentant le Verbe de Dieu qui veut eh bien, que Dieu le Père fasse miséricorde. Donc il dit ceci, l'homme a péché davantage par ignorance et par faiblesse que par malice. Enfin, ignorance, on ne peut pas dire que c'est quand même pleine ignorance, puisque Dieu avait parlé clairement en disant que le jour où il mangerait de ce fruit, eh bien, il mourrait. Mais par faiblesse, c'est sûr, ça c'est sûr. Faiblesse déjà d'Ève et puis d'Adam aussi à l'égard de sa femme. Ensuite, deuxième argument, l'homme, un chef-d'œuvre si accompli, reste inachevé et devient esclave du démon. Si jamais eh bien l'homme restait dans le péché, eh bien il serait esclave du démon. Et ça, donc Dieu, d'une certaine manière, perdrait de la gloire par là. Ensuite, troisième argument, tant de millions et de millions d'âmes damnées à cause d'un seul homme. Adam a péché et tous les hommes se retrouvent ainsi voués à l'enfer. Ça semble quand même exagéré. Quatrième argument, il est à propos de remplir les places laissées vacantes au ciel par les anges déchus. D'après, en fait, ce que pense, si vous voulez, le commun des théologiens, on dit que, enfin, ils disent que c'est ça, c'est tiré d'un passage du livre de l'Apocalypse, où on voit le tiers des étoiles qui tombent en enfer, que le tiers des anges, eh bien, ont suivi Lucifer dans sa révolte. Et donc, les deux tiers sont restés au ciel. Et comme il y a des milliards d'anges eh bien, qui ont été créés au départ, eh bien, il y a des places qui sont laissées vacantes au paradis. Et donc il s'agit que ces places soient comblées. Et donc selon ce que disent plusieurs théologiens, donc ils pensent que les hommes eh bien, doivent occuper les places qui ont été laissées libres là-haut, donc par les anges qui sont devenus déchus. Donc c'est le quatrième argument. Il est à propos de remplir les places laissées vacantes au ciel par les anges déchus. Et puis cinquième argument, alors, la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et dans l'éternité si l'homme est sauvé. Donc si l'homme est sauvé, eh bien Dieu en retirera une plus grande gloire. Alors face à ces arguments, eh bien réponse au départ de Dieu le Père. Il n'y a pas une miséricorde pour les anges déchus, il ne doit pas y en avoir pour les hommes. Commence à faire peur. Deuxième argument. L'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus. C'est vrai que Adam avait été créé dans un état de perfection. Le bon Dieu l'avait mis dans un paradis terrestre. Donc ce n'était pas encore le ciel, mais c'était quand même un paradis. n'y avait pas de tiques ni de moustiques. Il ne pleuvait pas, ou s'il y avait de la pluie, ben c'était une pluie qui était une rosée rafraîchie. S'il y avait du soleil, ce n'était pas un soleil qui nous brûlait. Donc il y avait, donc l'homme était dans ce paradis et enrichi de tous les biens, bien de la nature, bien de la grâce. Adam avait son épouse Ève, qui était charmante. Donc il avait vraiment tout ce qu'il fallait en soi. Troisième argument, j'ai pas dit qu'aujourd'hui ce n'était pas le cas. C'est une femme qui parle. Non, non, la femme reste en grande partie le paradis de l'homme lorsque l'un et l'autre font le bon choix. Mais de fait, l'un et l'autre sont aussi un peu le purgatoire, et je le reconnais. Et ça, c'est tout à fait juste, parce qu'on est sur la terre pour mériter le ciel. Et donc, il ne faut pas demander d'ailleurs à son conjoint ce que Dieu seul pourra vous donner. Et troisième argument, l'homme a suivi le démon dans sa désobéissance et son orgueil. Il doit donc le suivre dans son châtiment. Le péché doit être puni. Donc, il y a ces arguments qui sont donnés de part et d'autre. Alors, ceux du Verbe, donc deuxième personne de la Trinité, nous touchent beaucoup, bien sûr, ceux de la miséricorde. Et ceux de Dieu le Père, bien, nous font peur. Et donc, le Verbe de Dieu, écoutant Dieu le Père, eh bien, il se dit, oh, mais alors, comment faire? Et donc, voyant qu'il n'y avait pas de solution, je dirais, qui semblait donc être satisfaisante, eh bien, il décide lui-même de venir nous racheter. La sagesse éternelle, le Verbe de Dieu, s'offre alors à son Père pour racheter le péché des hommes et satisfaire à la justice divine. Et ainsi, donc, il pourra exercer sa miséricorde. Donc, puisque le péché, en fait, on a du mal à saisir en fait, la gravité du péché, hein, c'est sûr. Le péché offense Dieu. Le péché, on voit pour nous, le péché nous fait du tort, quel que soit le péché, nous fait du mal. Mais avant tout, le péché offense Dieu. Et comme on ne réalise pas qui est Dieu, on a du mal à réaliser la gravité du péché. Et donc, comme le péché, justement, est si grave parce qu'il offense Dieu, il était nécessaire, pour racheter le péché, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de poser des actes de valeur divine. Et comme c'est l'homme qui a péché, il était normal que ce soit l'homme qui rachète. Et donc, c'est le Dieu fait homme qui va racheter le péché. En tant qu'homme, il pourra représenter tous les hommes auprès de Dieu. En tant que Dieu, eh bien, il pourra poser des actes d'une valeur infinie, capable d'apaiser la juste colère de Dieu. Alors voyons maintenant les dispositions de l'âme de notre Seigneur venant en ce monde, dispositions qui sont décrites par saint Paul dans son épître aux Hébreux et qui étaient déjà présentes dans un psaume. D'un regard, l'âme de Jésus embrasse les siècles qui furent avant elle. Donc l'âme de Jésus qui va venir dans le temps, donc il y a maintenant 2000 ans, cette âme de Jésus voit donc tous les siècles qui ont précédé, donc tous les hommes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Elle voit avec l'abîme où gît l'humanité entière, impuissante à se libérer, la multiplicité et l'insuffisance foncière de tous les sacrifices de l'ancienne loi. Car la créature, si parfaite qu'elle soit, ne peut dignement réparer l'injure que le péché a commise à l'égard du Créateur. Donc il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, et tous ces sacrifices étaient déjà des figures, des annonces du sacrifice du Christ. Par exemple, eh bien, l'agneau pascal, l'agneau immolé, eh bien, symbolisait notre Seigneur qui est doux comme un agneau, qui, d'ailleurs Saint Jean-Baptiste, lorsqu'il a désigné notre Seigneur, il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Donc l'agneau pascal était une figure eh bien, de notre Seigneur. Ensuite, vous aviez ensuite des taureaux aussi, le taureau est l'emblème du sacerdoce, et donc ces taureaux aussi qui étaient immolés, donc symbolisaient aussi notre Seigneur qui est victime et qui est aussi prêtre. Voyez. Donc tous ces sacrifices de l'Ancien Testament symbolisaient déjà, annonçaient le sacrifice de notre Seigneur, mais par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas apaiser la juste colère encore une fois de Dieu. Alors voyant l'insuffisance de ces sacrifices de l'Ancien Testament, eh bien, l'âme de notre Seigneur regarde le programme d'immolation que Dieu demande d'elle pour réaliser le salut du monde. Et là, ici, donc, Dom Marion dit « Quel instant solennel pour l'âme de Jésus, quel instant aussi pour le genre humain. Et que fait cette âme? Par un mouvement d'amour immense, Elle se livre tout entière pour parfaire l'œuvre humano-divine qui peut seule rendre gloire au Père en sauvant l'humanité. Œuvre humano-divine, puisque notre Seigneur est vrai homme et vrai Dieu. Ô Père, et donc c'est là la citation de saint Paul aux Hébreux et du psaume 39. Ô Père, vous ne vouliez plus de ces offrandes, de ces sacrifices qui ne sont pas suffisamment dignes de vous, mais vous m'avez formé un corps. Et pourquoi me l'avez-vous donné? Car je viens, ô Père, accomplir votre volonté. Vous exigez que je vous l'offre en sacrifice. Me voici. En tête du livre de ma vie, il est écrit que je dois, ô Père, faire votre volonté. Ainsi je le veux, parce qu'il vous est agréable. Donc c'est en soumettant sa volonté à la volonté de son Père que notre Seigneur vient nous racheter. Et nous sommes, nous, sur la terre aussi, voyez, avec comme mission d'accomplir aussi la volonté de Dieu. Voyez. Il faut penser que cette volonté de Dieu, c'est cela qui va nous sauver. Et cette volonté de Dieu, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la vie la plus heureuse sur la terre. Et encore plus au ciel, mais même sur la terre. Voyez. On est plus heureux en faisant ce que le bon Dieu nous demande qu'en faisant ce que le démon nous demande. Le démon, pour nous attirer toujours à lui, son slogan, c'est toujours « liberté, liberté, liberté ». Mais en fait, dès lors qu'on s'écarte du droit chemin, on est libre de fait avant de faire le péché, mais une fois qu'on a fait le péché, qu'on a commis le péché, on devient esclave du péché. Ça encore, c'est ce que dit saint Paul, et c'est la réalité, malheureusement, le confirme. Donc une personne qui se fait avoir par le démon devient ensuite esclave du démon, esclave de ses mauvais penchants, esclave de son égoïsme, esclave ensuite de sa sensualité, enfin de l'orgueil, enfin de tout cela. Alors que quand on suit ce que le bon Dieu nous demande, eh bien notre Seigneur nous a dit, et il n'est pas menteur, il dit « Apprenez de moi que mon joug est doux et mon fardeau léger ». Donc il y a bien un joug à porter, donc il y a bien un poids, il y a bien une souffrance. Mais portée, eh bien, lorsqu'elle est portée avec notre Seigneur, en union avec notre Seigneur, par amour de notre Seigneur, et sous le regard de notre Seigneur, eh bien en ce moment-là, c'est tout de suite plus facile, voyez. Donc il faut bien se dire « Je suis sur terre » comme Jésus-Christ, pour accomplir la volonté de Dieu. Et en l'accomplissant, eh bien, je trouverai mon épanouissement et je trouverai eh bien, le moyen pour moi de racheter mes péchés et de conquérir le ciel qui est si beau. Donc voilà ce que fait notre Seigneur, justement, c'est qu'il se donne totalement à Dieu son Père. D'une volonté parfaite, le Christ a accepté cette somme de douleur qui commence à l'humilité de la crèche pour ne s'achever qu'à l'ignominie de la croix. Dès son entrée ici-bas, le Christ s'offre en victime. Le premier acte de sa vie est un acte sacerdotal. Alors ensuite, la différence qu'il y a entre notre Seigneur et nous, c'est que lui, il savait parfaitement, parce qu'il est Dieu, tout ce qu'il devrait souffrir depuis sa conception jusqu'à sa mort. Voyez. Et il voyait donc non seulement ce qu'il souffrirait, mais il voyait aussi la cause de ses souffrances, donc des péchés des hommes. Il voyait ensuite tout ce que les hommes, malheureusement, la réaction des hommes qui ne se soumettraient pas tous, malheureusement, à son joug. Parce qu'on peut se dire, si le bon Dieu vient sur la terre pour nous racheter, ben on pense que tout le monde va le suivre, voyez. Mais malheureusement, c'est loin d'être le cas. Et tout cela, notre Seigneur le voyait. Alors que pour nous, eh bien, c'est différent parce que, de fait, nous, on ne sait pas, en fait, ce que l'avenir nous réserve, comme on dit. Mais en tout cas, ce qui est certain, et ça, nous le savons dans la foi, que Dieu ne nous tentera jamais au-dessus de nos forces. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais une croix qui sera au-dessus de nos capacités. Dieu proportionne toujours ses grâces aux croix qu'il envoie. Et donc, la grâce à demander, ben, c'est de la fidélité au jour le jour. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Voyez. Donc, si je suis fidèle aujourd'hui à ce que le bon Dieu me demande, il n'y a pas de raison que je ne le sois pas demain. Et ensuite, de petite victoire en petite victoire, c'est comme ça que j'arriverai au ciel. Voyez. Donc je pense que ça doit être pour nous très, très réconfortant, je dirais, d'avoir cela comme orientation. Parce que elle est tout à fait catholique, elle est tout à fait dans la ligne voulue par notre Seigneur. Et notre Seigneur veut qu'on lui fasse confiance. Parce que parfois, nous, on a du mal. Parce qu'il nous demande finalement de signer un chèque en blanc. Et on ne sait pas le nombre de zéros qu'il va indiquer dessus, donc ça fait un peu peur. Mais en fait, il faut lui faire confiance. Voyez. C'est le bon Dieu qui nous a créés, il nous a sauvés, il nous a préparé une place au ciel. Donc on sait très bien qu'il nous donnera les grâces voulues en temps voulu. Donc il aime qu'on lui fasse confiance. pour vous qui êtes mère de famille, ben, à l'égard de vos enfants, quand parfois vous devez conduire vos enfants, parfois vous devez l'amener chez le docteur ou autre chose, ben, c'est pas toujours très drôle, bien sûr, ben, sans doute, mais c'est toujours pour le bien de l'enfant. Et donc, quand l'enfant râle un peu ou pleurniche, ben, en ce moment-là, vous dites, mais fais-moi confiance quand même. Je suis ta mère, voilà, donc, je veux ton bien. Donc en ce moment-là, vous avez en fait, hein, vous voyez très bien que c'est. Donc c'est le bien de votre enfant que vous désirez, enfin je le souhaite en tout cas, ouais, pour vous et pour votre enfant, mais je le pense. Et du côté de votre enfant, eh bien vous êtes quand même un peu offensé quand vous sentez, quand vous avez l'impression que votre enfant, eh bien, ne vous comprend pas ou a l'impression que ce que vous lui demandez est trop difficile, voyez. Donc ben, je dirais Dieu à notre égard c'est la même chose, voyez. Dieu aime qu'on lui fasse confiance, voyez. Et donc je pense que régulièrement c'est important de revenir là-dessus parce que de fait, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est complètement instable, et donc avec aussi donc, un avenir aussi qui est instable, et pour tout le monde, hein, on est tous dans le même monde hein, pour cela. L'Église elle-même aussi qui est fragilisée aujourd'hui par cette crise qui n'en finit pas. Et du coup, donc, en raison de ce contexte-là, on peut peut-être avoir des motifs humains, si vous voulez, de manquer de confiance. Mais justement, je dirais que. Le Dieu, malgré tout, il reste là. Il reste maître de la situation. Et on sait très bien que s'il permet un mal, c'est toujours dans le but d'en tirer un bien. Même si ce bien, on ne le voit pas tout de suite. Voyez. Et donc, c'est l'occasion, au contraire, pour nous de faire encore davantage confiance à Dieu. Parce que si on fait confiance à Dieu que lorsque, je dirais, on a à vue humaine, eh bien, ça va comme sur des roulettes, je dirais qu'on n'a pas de mérite, voyez. Et donc, au contraire, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est qu'on lui fasse confiance, alors que humainement, ben, on se demande un peu, on est un peu dans le tunnel, on a l'impression qu'on est dans le noir, mais eh bien, on serre très fort la main du bon Dieu, parce qu'on se dit que malgré tout, on sait que ce tunnel aura une sortie, et que cette sortie, après, nous va conduire à la lumière. Ouais. Donc, notre Seigneur, en tout cas, a offert donc sa vie à Dieu son Père, donc dans un bel élan d'amour, à l'instant de son incarnation, et après, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'il a été fidèle à ce oui initial toute sa vie. Et ça, c'est aussi la grâce à demander pour nous-mêmes. S'il est vrai que ce n'est pas toujours facile de s'engager, par exemple, dans la voie du sacerdoce, c'est plus difficile encore, bien sûr, de tenir toute sa vie, voyez. Même si c'est tout à fait possible, bien évidemment, avec la grâce du bon Dieu. Et pour le mariage, c'est la même chose. C'est déjà pas toujours facile de s'engager aujourd'hui dans le mariage, vu la nature humaine, vu ce que nous sommes aujourd'hui, aussi le monde qui nous entoure. Mais c'est plus facile malgré tout de s'engager que de tenir l'engagement. Et donc, donc le bon Dieu le sait par contre. Et par contre, si précisément on s'appuie sur Dieu, et si on est convaincu que c'est le bon Dieu qui nous a voulu là, eh bien c'est tout de suite plus facile, bien sûr. Par contre, à nous, bien sûr, de faire aussi des choix éclairés, de faire des bons choix au départ pour avoir plus de chances, bien sûr, de réussite, c'est clair aussi. Alors maintenant, je voudrais juste m'arrêter sur deux aspects. Il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur notre Seigneur. Peut-être juste un mot là sur pour admirer notre Seigneur. Quand on regarde un peu la vie de notre Seigneur, quand on lit l'Évangile, quand on lit les commentaires aussi que les pères de l'Église ont pu faire, que d'autres théologiens ont pu faire, ou d'autres auteurs spirituels, ce qui est admiratif, hein, ce qui est sujet d'admiration pour nous, c'est de voir comment notre Seigneur a une nature très 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 équilibrée. Voyez. Donc notre Seigneur, bien sûr, il est vrai homme et vrai Dieu, mais en tant qu'homme même déjà, en regardant simplement l'aspect humain, il y a chez lui un magnifique équilibre. Et cela a été bien mis en valeur par le père Garrigou Lagrange dans un beau livre intitulé Le Sauveur et son amour pour nous. Il dit ceci. La plénitude de grâce, donc notre Seigneur est donc était plein de grâce et de vérité, c'est ce que l'on a dans l'évangile de Saint Jean, donc à la fin du dernier évangile. Donc notre Seigneur est apparu plein de grâce et de vérité, donc la grâce et la grâce sanctifiante, c'est cette vie de Dieu en lui, il l'avait en plénitude. Donc cette plénitude de grâce est manifestée par l'harmonie merveilleuse des vertus en apparence les plus opposées. L'harmonie qui est l'unité dans la diversité, définition de l'harmonie, unité dans la diversité, est d'autant plus belle que l'unité est plus profonde dans une diversité plus complète, que l'intimité est plus foncière entre des termes plus éloignés. Or, en Jésus se concilient admirablement le surnaturel le plus élevé et le naturel le plus simple, le plus spontané. Souvent, au contraire, lorsque nous voulons être naturels, nous oublions les exigences de la grâce et nous tombons dans le naturalisme pratique de la tiédeur. Ou bien, lorsque nous voulons s'en passer par les intermédiaires indispensables, arriver à la perfection surnaturelle, nous tombons dans une rigidité orgueilleuse qui rappelle celle des jansénistes, ou dans le faux surnaturel d'une exaltation qui frise l'extravagance. Donc notre Seigneur, il est très surnaturel, dans le sens où on sent qu'il est, il est un homme de Dieu, il est rempli de Dieu. Et en même temps, il est naturel, on n'a pas peur de l'aborder, voyez, on n'a pas peur de l'approcher. Donc il y a une grandeur chez lui qui fait qu'on sent une dignité, et en même temps, on sent une proximité. Donc il y a deux aspects déjà qu'on peut admirer en lui. Ensuite, en Jésus, nature et grâce s'harmonisent admirablement parce qu'il a la plénitude de la grâce et que sa nature est pleinement soumise. En lui s'harmonise aussi la sagesse la plus sublime et le sens pratique le plus avisé. Nous autres, il nous arrive ou bien d'être trop abstraits, perdus dans de vagues généralités, ou au contraire de nous arrêter outre mesure au détail sans voir les choses d'assez haut. Donc notre Seigneur est à la fois, donc il a cette sagesse, donc il voit tout à partir de principes élevés, et en même temps, il est aussi très concret. Donc il donne des applications aussi très concrètes. En Jésus s'unissent de même la justice parfaite et la miséricorde inépuisable. Alors que souvent, chez nous, la justice tourne à la raideur et la miséricorde à la faiblesse. Par exemple, dans l'éducation des enfants, il peut y avoir des moments où vous êtes énervé, vous êtes agacé, donc ça part un peu dans tous les sens. Pauvres enfants, même s'ils le méritent en partie. Et puis d'autres moments, après, vous en avez un peu marre, vous passez à autre chose, et puis les enfants, vous fermez un peu trop les yeux. Voyez. Donc, on sent bien que l'équilibre n'est pas toujours facile à conserver. Donc, de savoir malgré tout être plus sévère lorsque c'est nécessaire, et ensuite aussi savoir passer l'éponge, savoir reconnaître aussi que les enfants restent des enfants, et savoir aussi donc être miséricordieux, et savoir aussi récompenser ensuite les enfants, et ouvrir les yeux pour souligner ce que les enfants font de bien. Donc cet équilibre entre justice et miséricorde est souvent difficile pour nous. Et en notre Seigneur, au contraire, donc on peut l'admirer. Rappelons-nous par exemple le pardon du Sauveur à la femme adultère, quelle fermeté et à la fois quelle bonté. Fermeté parce qu'il lui dit « va et ne pêche plus », et ne dit pas « eh bien, tu peux continuer parce qu'on ira tous au paradis », pas du tout, hein. Et par contre, eh bien, avant de lui avoir dit « va et ne pêche plus », eh bien, il a dit aux autres qui étaient là présents que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et du coup, ils sont partis, eh bien, les uns après les autres, la tête basse. Et il semblerait d'ailleurs que notre Seigneur marquait au sol certaines choses, il semblerait que c'était les péchés de ceux qui étaient là, qui l'écrivaient. Donc, quand les personnes reconnaissaient leurs péchés, au fur et à mesure, oh, ils se mettaient à déguerpir. Voilà. Et finalement, cette femme est restée toute seule. Et notre Seigneur, en ce moment-là, quand elle était seule, il a attendu que les autres soient partis pour lui faire la leçon. Oui. Donc, il a été assez discret pour ne pas être rentre-dedans devant tout le monde. Oui. Il a attendu le bon moment pour, lorsque tout le monde était parti, pour lui dire en ce moment-là ce qu'il avait à lui dire. Donc, va et ne pêche plus. En lui s'harmonise également une dignité souveraine et la plus profonde humilité. Tandis que parmi les hommes, les magnanimes sont souvent un peu hautains, et des âmes naturellement modestes restent fréquemment pusillanimes et sans énergie. Donc cette dignité qui apparaît dans sa manière d'être et dans son discours, par exemple dans la Passion, c'est vraiment très beau de voir dans ses silences et ses réponses cette grande dignité. Et en même temps une profonde humilité, même dans l'acceptation par exemple de tous les outrages qu'il doit subir dans sa passion. En Jésus se concilie enfin la force la plus héroïque et la plus grande douceur dans le soupir du crucifié qui prie pour ses bourreaux, « Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc force d'âme bien sûr de notre Seigneur qui est capable d'endurer autant de souffrances horribles et en même temps une réaction pleine de bonté à l'égard même de ses bourreaux. Conclusion donnée par le père Grégoire Lagrange, impossible de trouver harmonie morale plus haute, plus profonde, d'un rayonnement plus étendu, d'une splendeur plus éclatante, dans une plus noble sobriété d'expression. Ensuite alors, un autre aspect donc, qui doit nous toucher beaucoup en regardant la vie de notre Seigneur, c'est spécialement donc, la miséricorde dont il a fait preuve à notre égard. Donc déjà dans l'Ancien Testament, si on regarde bien l'Ancien Testament, parfois certains disent L'Ancien Testament, c'est surtout le Dieu justicier. Le Nouveau Testament, c'est la miséricorde. À mon avis, c'est caricatural. La miséricorde est déjà très présente dans l'Ancien Testament. Et la justice reste présente aussi dans le Nouveau, hein. Mais c'est vrai qu'en dominante, on peut dire quand même que l'Ancien Testament met plus l'accent sur la justice et le Nouveau plus sur la miséricorde. Cependant, donc, il y a quand même déjà de très beaux passages de l'Ancien Testament où Dieu, eh bien, manifeste sa miséricorde. Par exemple, à un moment donné, où c'est le bon Dieu donc qui parle, il dit: Lavez-vous, purifiez-vous, enlevez de mes yeux le mal de vos pensées, mettez fin à vos actes pervers, apprenez à bien faire et venez, citez-moi. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, je vous rendrai blanc comme la neige. Donc un passage, je crois, d'Isaïe. Un autre passage qui dit aussi: À quelque moment que le pécheur se convertisse, son péché sera pardonné. Mais donc c'est surtout dans le Nouveau Testament que la miséricorde est la plus éclatante. Et pourquoi parler de cette miséricorde? Eh bien en fait parce que c'est l'attribut divin qui va nous rendre Dieu plus proche. Voyez. Quand on regarde notre Seigneur et quand on réalise qu'il est Dieu, on se dit: Oh, mais Dieu qui est si grand, celui qui a fait le monde, c'est lui dont on parle. Du coup, ça fait un peu peur, voyez. Eh bien, ce qui va nous rendre justement notre Seigneur proche, c'est justement cette miséricorde. C'est le fait que miséricorde, ça veut dire qu'il donne son cœur aux pauvres. Misérie, pauvre, cor, donc c'est le cœur d'arrêt qui donne son cœur aux pauvres. Donc Dieu, eh bien, dans sa grande miséricorde, justement, se penche sur la misère pour l'extraire et pour nous ensuite nous élever jusqu'à lui. Donc il s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Ça, c'est tout le plan divin, vous voyez. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'élève en lui-même, mais en fait, il s'élève, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Mais la véritable humilité, c'est justement d'accepter ce que nous sommes. Mais dès qu'on s'accepte tel que l'on est, eh bien notre Seigneur nous prend en ce moment-là, où nous sommes, pour nous relever et pour nous conduire jusqu'à lui. C'est tout le plan de Dieu. Donc reprenons quelques paroles de notre Seigneur, où notre Seigneur dit par exemple: Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Oui. Donc celui qui se croit juste, eh bien, c'est l'exemple des pharisiens qui étaient remplis d'eux-mêmes. Si on est rempli de nous-mêmes, il n'y a plus de place pour le bon Dieu, voyez. Il n'y a plus de place pour lui dans notre âme. Donc il ne peut pas agir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas agir, c'est qu'il ne peut plus agir. Si on est plein de soi, si on est rempli de nous-mêmes, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Donc il faut faire le vide en nous pour que le bon Dieu puisse agir, voyez. Et plus justement on aura fait le vide, eh bien plus on pourra se remplir de lui. Notre Seigneur dit encore: Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Venez à moi. Donc il faut aller à notre Seigneur, voyez. Trop souvent, on se débat tout seul, voyez. On a des difficultés, on a des croix, on a des souffrances physiques, morales, spirituelles, de tous ordres, familiales, sociales, dans le travail. Eh bien, pensons que notre Seigneur, il est là, il est toujours près de nous, toujours prêt à nous écouter, voyez. Venez à moi. Donc faut croire qu'il est là, il est toujours près de nous. Et quand tous les hommes nous abandonneraient, eh bien, il restera là. Il n'y a pas de moment où notre Seigneur sera plus proche de nous que quand les hommes nous abandonneront. Il faut le croire, voyez. Alors il est vrai qu'on aimerait bien le sentir. Et ça, un peu notre problème, je dirais, c'est que, bien sûr, on est des hommes, donc on a besoin, ça nous fait du bien de sentir les choses. Mais eh bien, tant qu'on est sur la terre, Dieu veut qu'on vive de foi. Et croire, c'est accepter de ne pas voir. Donc le jour où on verra, ce ne sera plus la foi, ce sera la vision. Donc il faut croire que notre Seigneur est réellement là. Mais en même temps, il faut, je dirais, si on a ce commerce d'amitié avec lui, eh bien, je pense qu'au fur et à mesure, ça devient plus facile, je pense. Et il y a bien des moments où notre Seigneur se manifeste à nous, même de façon sensible. Mais par contre, de notre côté à nous, eh bien, on doit surtout ne pas abandonner la prière au moment où on a l'impression que ça ne sert plus à rien, parce qu'on a l'impression qu'il est loin. Donc il ne faut pas qu'on soit victime de nos impressions. Dieu veut, eh bien, la foi. Il veut vraiment, eh bien, et croire encore une fois, c'est pas sentir. La foi n'est pas de l'ordre du sentiment. Même si ensuite, le bon Dieu, parfois, eh bien, il va nous donner, eh bien, ce sentiment de sa présence aussi. Ça arrive, voyez, comme un débordement, je dirais, de générosité de son côté. Donc, il le fait à certains moments. Mais il ne faut pas confondre consolation spirituelle avec progrès spirituel et désolation spirituelle, donc le moment où on est vraiment en impression que le bon Dieu est lointain, qu'il n'est plus là, avec recul spirituel. Il y a des moments où le bon Dieu se cache. Et donc quand il se cache, eh bien, il faut lui dire à ce moment-là qu'on croit qu'il est toujours là. Si on met en doute en ce moment-là sa présence quand il se cache, eh bien, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir. Alors, une image que les jeunes comprendront, en fait, c'est qu'on doit avoir toujours son portable ouvert. Enfin, j'entends bien, je parle spirituel, hein. Mais par contre, c'est pas à nous de fixer l'heure de rendez-vous, quoi. Donc, il faut qu'il soit toujours ouvert. Et alors, si nous, bah, en fait, moi, ça fait déjà un quart d'heure que j'attends, quoi. Bon, je vais pas rester poireauté là encore une demi-heure, hein. Alors, du coup, on ferme son portable, et lorsqu'il parle, ah, ben, plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? Dommage. Donc, il faut avoir le portable ouvert. Mais ce n'est pas à nous de fixer l'heure de rendez-vous. Il faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Et c'est sûr, c'est certain, ça. Mais si vous parlez à notre Seigneur, et même que vous avez l'impression qu'il ne vous répond pas, eh bien, il finira par répondre, c'est sûr. On a l'exemple de la Cananéenne, on a l'exemple de Sainte Marie-Madeleine, on a plusieurs exemples dans la Sainte Écriture où on voit que notre Seigneur, il aime être prié, il aime être supplié. Et il ne réagit pas au quart de tour, parce que de fait, aujourd'hui, avec les moyens modernes, on peut arriver à avoir des contacts permanents, immédiats, mais parce que d'abord, notre Seigneur est en dehors du temps, hein, donc lui, il est dans son éternité, et puis il n'a pas la même manière de compter que nous, parce qu'il est Dieu. Ouais. Donc ne soyons pas trop exigeants, je dirais. Voyez. Et je pense que peut-être que pour les jeunes, c'est encore plus dur, parce qu'ils sont moins habitués à cette patience, quoi. Parce que autrefois, ben, quand on travaille la terre, on sait très bien que. Eh bien, les arbres poussent pas comme ça, hein, donc il faut du temps. Eh bien, dans les lois de la nature, il faut du temps, et dans les lois de la grâce aussi. Ensuite, notre Seigneur dit encore, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Et ça aussi, c'est, il dit pas je vaincrai, il dit j'ai vaincu, voyez. Donc, on préfère en général être du côté des gagnants que des perdants, je suppose, hein, je pense. Eh bien, il faut se dire, eh bien, si je suis avec notre Seigneur, je suis du bon côté. Voyez. Notre Seigneur a bien dit, enfin, donc, qu'il a vaincu le monde. Et la Sainte Vierge nous a dit à son tour, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Mais seulement nous, on voudrait un triomphe. Et un triomphe aujourd'hui, si possible. Bon, demain, on veut bien attendre, mais enfin, bon, voilà. Mais donc, le plus tôt possible, quoi. Et on voudrait en plus être à la bonne place à ce moment-là, au moment du triomphe. C'est très humain, hein, mais là encore aussi, c'est à la fin. Oui. Elle n'a pas dit je triompherai demain. Oui. Mais si nous savons nous donner, nous redonner, parce que, vous voyez, celui qui est vaincu, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui reste à terre. Oui. Est-ce que vous avez envie de vous relever? Oui, vous êtes dans le droit chemin. Oui. Oui, mais je me suis cassé la figure déjà 50 fois. C'est pas grave. Notre Seigneur a demandé, il nous a dit lui-même qu'il était prêt il nous demande de pardonner 70 fois cette fois. Ça veut dire que lui-même, il le fait. Voyez. Donc, c'est pas bien sûr qu'on préfère ne pas tomber que de tomber. Mais l'important, c'est de vouloir se relever. C'est au moins de vouloir avancer. Vouloir aimer, c'est aimer. Et vouloir avancer, c'est ce qui nous permet de rester dans le droit chemin ou de reprendre le droit chemin si on s'en est écarté. Dans les paraboles aussi, alors notre Seigneur nous dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Et bien là, j'ai mieux compris cette phrase depuis que je suis prêtre, parce que même si les prêtres aiment tous nos bons fidèles, et on est très content de les retrouver et de leur faire du bien, eh bien, lorsqu'il y a une âme qui revient de loin et qui vient voir le prêtre, eh bien, c'est toujours très réconfortant de voir une âme, parce que on exalte toujours, enfin, on est toujours émerveillé par la puissance de la grâce, quoi. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, on est témoin privilégié en tant que prêtre. Je dirais qu'en tant que prêtre, on voit le meilleur et le pire. Hélas, on voit le pire aussi. Hein. Donc, on voit des gens qui ont beaucoup reçu et qui sont cassés la figure et qui parfois sont tombés très bas. Mais on voit aussi des personnes qui reviennent donc viennent ou reviennent de très loin. Et donc ça, c'est magnifique. Ouais. Et donc quand on parle de la joie dans le ciel, ben, le prêtre lui-même participe à cette joie. Donc en voyant ce que le curé d'Ars appelait les gros poissons. On aime bien les petits poissons, mais on aime bien aussi les gros poissons. La Drague Mégarée, de la même, il dit, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous avez la parabole de l'enfant prodigue que vous connaissez. Avec quel soin le père de la parabole accueille son fils qui revient vers lui après avoir dissipé tous ses biens. Il va jusqu'à tuer le veau gras pour fêter son retour. Donc le père qui est tout heureux d'accueillir son fils. Il est tout heureux d'accueillir son fils parce qu'il voit précisément aussi ses bonnes dispositions. Alors bien sûr que c'est le bon Dieu qui change le cœur, hein. Et c'est ça qui est très beau justement dans les conversions, c'est de voir les bonnes dispositions des âmes, quoi, des âmes qui sont très ouvertes, voyez, donc, et qui sont parfois plus ouvertes que ceux qui ont plus reçu au départ. Là, par contre, ça fait de la peine. Des gens, parfois, ont beaucoup reçu et ne fructifient pas suffisamment. Voyez. Donc, c'est la parabole des talents. Voyez. Celui qui a reçu deux, il doit en gagner deux autres. Celui qui en a reçu trois, il doit en gagner trois autres. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas se comparer aux autres. Voyez. Comme émulation, je pense, pour nous, quoi. Il faut toujours se dire, eh bien, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Et donc, Dieu me demandera compte par rapport à ce que j'ai reçu. Voyez. Et c'est pour ça que, par exemple, un saint François d'Assise, il s'estimait eh bien, être le plus grand pécheur. Et on lui disait, mais quand même, François, t'exagères. Et alors, il répondait en ce moment-là, j'ai beaucoup reçu de Dieu. Et si, de fait, les autres, ceux qui aujourd'hui, par exemple, vivent dans le péché, ils avaient été à ma place, eh bien, peut-être qu'ils auraient mieux profité que moi. Et si moi, j'avais eu la même hérédité, si j'avais eu le même contexte familial, si j'avais eu les mêmes circonstances, ben, j'aurais peut-être été bien pire qu'eux, vous voyez. Donc, il faut essayer de ne pas se comparer à la moyenne, mais se comparer, eh bien, aux grâces qu'on a reçues. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on a du mal, on est incapable par soi-même de se juger. Donc notre juge, c'est le Seigneur, donc il faut lui faire confiance, mais en même temps, il faut quand même essayer de développer au maximum ses talents avec l'aide du bon Dieu pour et ne pas faire les enfants gâtés, donc qui ne profitent, enfin qui se reposent un peu trop sur leur laurier en s'appuyant trop sur le fait qu'ils ont une vie qui n'est pas trop mal, je dirais, par rapport à la moyenne. Donc, essayons toujours de donner davantage. Oui. Et c'est en ce sens aussi, je pense, que Mgr Lefebvre, par exemple, à la fin de sa vie, donc il réfléchissait, bien sûr, il a réfléchi toute sa vie, bien sûr, c'était un homme de Dieu, et il connaissait bien les âmes, il avait une culture très large, après, bon, partout son ministère, en Afrique, en Europe, un peu partout, en tant que supérieur aussi général de congrégation. Et à la fin de sa vie, donc aux séminaristes, il leur disait il y a deux manières d'approcher la morale. La théologie morale, on peut l'approcher sous l'angle des commandements de Dieu. Donc, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère. Donc, on les connaît, donc, ces commandements, tu ne mentiras pas. Et ensuite, on peut aussi approcher donc de la morale, eh bien, sous l'angle des vertus. Donc, les vertus de foi, d'espérance, de charité, de force, de prudence, de justice, de tempérance. Et il disait, lui, qu'il préférait, en fait, une morale des vertus à la morale des commandements. Parce que dans la morale des commandements, c'est d'abord, il faut faire, enfin, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, mais c'est plutôt négatif, peut-être, comme présentation. Alors qu'une vertu, c'est positif. Mais aussi, en même temps, une vertu, eh bien, en soi, c'est plus exigeant. Parce que sinon, on peut se dire, oh, mais moi, ça va, hein, j'ai pas tué, j'ai pas volé, hein, donc tout va bien, quoi, vous voyez. On a l'impression que tout va bien. Mais non, en fait, on peut toujours accroître, enfin, on doit toujours chercher à mieux faire. Si on regarde la charité, bien, saint Augustin disait, eh bien, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, voyez. Et donc, on n'aimera jamais assez le bon Dieu. Et donc, ça doit nous encourager à aimer toujours davantage, voyez. Donc, ça doit nous aider à vouloir toujours mettre un pas en avant, voyez. Et je pense que la retraite est là pour cela, pour se dire, eh bien, quel pas aujourd'hui je dois mettre en avant pour essayer d'avoir une vie meilleure, voyez. En tenant compte, bien sûr, de mes dons, de mes capacités, des circonstances concrètes où je suis. Voilà. Ensuite, c'est beau aussi de voir l'attitude de notre Seigneur à l'égard des pécheurs. Je prends un seul exemple que j'aime beaucoup, c'est la Samaritaine, le dialogue de notre Seigneur avec la Samaritaine. Parce que dans ce dialogue, eh bien, on voit très bien cette pédagogie de notre Seigneur qu'il faudrait que nous soyons aussi tous capables. À la place où nous sommes, avec aussi l'éclairage du Saint-Esprit, bien évidemment, hein, c'est le bon Dieu qui change les cœurs, mais d'essayer d'imiter un petit peu cette attitude de notre Seigneur. Vous voyez. Dans l'histoire de la Samaritaine, vous connaissez bien, ce serait trop long de la raconter dans les détails. Donc notre Seigneur traverse la Samarie pour se rendre à Jérusalem, donc il vient de Galilée, il va donc en Judée, il traverse la Samarie. Et les Samaritains étaient mi-juifs, mi-païens. Et donc, ça veut dire qu'il n'était pas, il n'observait pas la vraie religion. Et donc, notre Seigneur, traversant cette région-là, il demande aux apôtres d'aller chercher le casse-croûte. Donc, ils vont chercher la nourriture. Et à ce moment-là, il s'assoit à la margelle du puits de Jacob. Et là, une femme l'aborde. Enfin, il aborde une femme, pardon, ce qui normalement n'était pas dans les coutumes déjà aussi non plus à cette époque. Donc, qui était une Samaritaine. Et il lui dit, donne-moi à boire. Donc d'abord, on va prendre un petit pot ensemble. Ça commence comme ça, c'est le pot d'amitié. Oui. Donc c'est notre Seigneur se met à son niveau, et donc ce n'est pas une grande discussion théologique, hein, c'est donne-moi à boire. Et en même temps, il se fait le débiteur. Donc, il se met en tête sous sa coupe, en quelque sorte. Voyez. Et puis après, petit à petit, donc, il va discuter avec elle. Et puis, il dit, mais si tu savais qui j'étais, en fait, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Alors, là, il ne comprend plus trop. Tiens, tout à l'heure, c'est lui qui me demande à boire. Maintenant, il me dit que c'est moi qui devrais. C'est lui qui. Enfin, c'est moi qui devrais lui demander à boire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, du coup, petit à petit, donc, il monte un petit peu dans la conversation. Et puis après, à la fin de la conversation, alors, il va lui dire, va chercher ton mari. Et alors, elle répond, bah, j'ai pas de mari, moi. Et en ce moment-là, il lui dit, bah, tu fais bien dire que tu n'en as pas parce que tu en as eu cinq, et celui avec lequel tu vis n'est pas le tien. En cela, tu dis vrai. Alors, en ce moment-là, bien sûr que ça, il met, si vous voulez, le doigt sur la plaie. Et du coup, eh bien, elle, en ce moment-là, dit, mais je vois que tu es un prophète. Et donc, petit à petit, donc, il monte encore en grade, je dirais, enfin, petit à petit, donc, en gradation, donc, jusqu'à lui dire après qu'il est lui-même le Messie, vous voyez. Donc, on voit qu'il y a, du point A au point B, il y a eu toute une gradation, vous voyez. Donc, le sectaire aurait dit, moi, je discute pas avec toi. Hein. D'abord, tu es une femme, ensuite, tu es une samaritaine, ensuite, tu vis comme une patachon, convertis-toi, après, on discutera. Hein. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, les résultats, à mon avis, n'auraient pas été très efficaces, quoi. Je pense que cette femme serait restée où elle était. Rien. Eh bien, aujourd'hui, dans l'écuménisme, c'est on prend un pot ensemble, et c'est très sympa, et donc on est pour le dialogue, et donc on fait des échanges, on ferait un petit coucou, on s'embrasse, et tout va bien. Voilà. Eh bien, la réalité, vous voyez, eh bien, la pédagogie divine, eh bien, elle est tout autre, vous voyez. Et sachez qu'on peut s'arrêter parfois à mi-course, et c'est parfois une tentation. C'est-à-dire qu'on fait progresser la personne, mais ensuite, on ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, quand je dis encore une fois, quel que soit le niveau où l'on est, il faut encore avancer. Vous voyez. Et donc, c'est ce qu'il faut se dire toujours, eh bien, quel pas mettre en avant pour pouvoir, justement, arriver donc jusqu'au bout, soit par rapport à nous, ou soit aussi dans les conversions par rapport aux personnes de notre entourage. Vous voyez. Donc, c'est vraiment un très bel exemple, je pense. Cette attitude de notre Seigneur à l'égard de la Samaritaine. Ou aussi à l'égard de Sainte Marie-Madeleine, on voit que notre Seigneur a été très délicat avec elle, il l'a fait progresser d'une façon très, très lente, mais très sûre aussi en même temps. Et puis après, une fois qu'elle était vraiment arrivée à un haut degré mystique, même, alors qu'il a permis aux autres saintes femmes de lui baiser les pieds, eh bien, à elle, il lui a dit « ne me touche pas ». Vous voyez, donc, elle était plus détachée des sens en ce moment-là, donc il a élevé encore plus haut. Vous pouvez prendre aussi les miracles de notre Seigneur. Hein. Les miracles de notre Seigneur sont bien sûr un indice de notre Seigneur qu'il a pitié de nos maux physiques. Mais il n'y a pas que cela. Le miracle physique lui-même est l'image toujours de cette miséricorde de notre Seigneur. Par exemple, quand notre Seigneur guérit les 10 lépreux, eh bien la lèpre, ce que la lèpre produit sur le corps, eh bien le péché le produit sur l'âme. Oui. Ou encore le paralytique de Capharnaüm, là notre Seigneur établit le lien d'ailleurs en guérissant ce paralytique avec la puissance, la capacité qu'il a de guérir nos péchés. Il dit ceci. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Et avant, il a posé la question, il a dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Remets, donc tes péchés te sont remis, ou bien de dire, prends ton grabat et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir justement de remettre les péchés, je te dis, ben, prends ton grabat et rentre à la maison. Donc il se lève et puis il rentre chez lui. Et de fait, la paralysie est encore aussi une image du péché dans le sens où. Quand on est en état de péché mortel, malheureusement, on ne peut plus faire un pouce vers le ciel. Vous voyez. On est paralysé. On ne peut plus avancer. C'est fini. C'est pour ça qu'il faut retrouver l'amitié de Dieu pour ensuite retrouver l'état de grâce. Ou les morts que notre Seigneur ressuscite, comme Lazare, par exemple, eh bien, c'est encore un autre symbole du péché que notre Seigneur est venu racheter. Donc, quand on est mort par le péché mortel, eh bien, notre Seigneur vient nous ressusciter, nous redonner la vie. Vous voyez. On peut aussi admirer l'attitude de notre Seigneur dans sa passion, ce serait trop long de la développer. Je m'arrête simplement à l'attitude de notre Seigneur à l'égard de Saint-Pierre. Voyez. Saint-Pierre était le chef des apôtres. Hein. Saint-Pierre avait une nature primesautière, c'était quelqu'un de très spontané. Il était très nature joviale, positif, c'était un entraîneur, un meneur d'hommes, mais très sûr de lui et trop sûr de lui. C'était ça son point faible en fait. Et donc c'était un homme entier, mais trop sûr de lui. Et donc notre Seigneur lui a plusieurs fois, il a voulu donner la leçon pour l'amener à plus d'humilité, vous voyez. Mais il n'y avait rien à faire. Ouais. Donc, au point que même le jour même où il a, avant de renier notre Seigneur, eh bien, notre Seigneur l'a averti. Il lui a dit, avant que le coq ait chanté trois fois, eh bien, tu m'auras renié. Avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié par trois fois. Et Saint-Pierre, en ce moment-là, eh bien, a dit, non, non, ça m'arrivera jamais. Et ce qui montre que Saint-Pierre était trop sûr de lui, c'est qu'il dit à notre Seigneur, quand bien même tous les autres vous abandonneraient, moi, tu peux compter sur moi, il n'y a aucun problème. Alors du coup, notre Seigneur a dit, ben, tiens, rira bien qui rira le dernier. Donc il a laissé en ce moment-là, et puis ben, malheureusement, nous connaissons la suite, Saint-Pierre, donc de fait, a renié donc notre Seigneur. Et la troisième fois, avec des imprécations, c'est-à-dire en prenant même Dieu à témoin et en jurant, quoi. Mais donc il a, parce qu'il a eu peur, en fait, il a eu peur pour sa peau à ce moment-là. Et ensuite, quand notre Seigneur est sorti, alors, eh bien, c'est très beau ce passage. Le Seigneur se retournant arrêta son regard sur Pierre. Notre Seigneur se retournant, donc c'est notre Seigneur qui fait le premier pas, vous voyez. Nous, on est capable de se casser la figure, mais on n'est pas capable de remonter tout seul, vous voyez. Il faut que ce soit notre Seigneur qui vienne nous repêcher, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus abuser de la grâce. Bon, une fois qu'on est tombé, il faut pas se dire c'est foutu, je n'y arriverai jamais. Il faut toujours remonter la pente, bien sûr. Mais il ne faut quand même pas, de notre côté, abuser de la grâce, vous voyez. Du côté de notre Seigneur, il n'y a pas de problème, mais c'est nous qui nous mettons parfois dans un état tel que l'on s'enferme en fait en nous-mêmes, vous voyez. Et donc notre Seigneur regarde Pierre, et Pierre donc revoit notre Seigneur. Et c'est très beau de voir la réaction de Pierre. Dès qu'il croise le regard de notre Seigneur, il pleure tout de suite, ouais. Il pleure tout de suite, immédiatement. Ouais. Et il pleure amèrement. Donc ça veut dire que dans le regard, moi je n'ai pas vu le regard de notre Seigneur, hein, mais c'est très, très intéressant de méditer sur ce regard. À travers ce regard de notre Seigneur, eh bien, il a tout compris, vous voyez. Il a compris la gravité de son péché, et d'où le pleur. Et en même temps, il a compris la bonté de notre Seigneur et la miséricorde de notre Seigneur pour lui. Vous voyez. Donc je pense que c'est une grâce peut-être à demander aussi au début de cette retraite, hein, pour chacun d'entre nous, d'avoir aussi ce même, d'essayer de croiser ce regard de notre Seigneur sur vous, vous voyez. Que vous vous regardiez tel que notre Seigneur vous voit, vous voyez. Notre Seigneur vous voit, il vous voit personnellement, il vous voit tel que vous êtes, vous voyez. Que vous soyez capable, eh bien, de vous voir tel que notre Seigneur vous voit. Afin que vous retrouviez, à travers ce regard de notre Seigneur, vous voyez tout ce que vous faites de bien, j'espère que vous pourrez le voir, et surtout aussi, et de voir aussi ce que vous faites de mal, pour voir ce qu'il y a encore à corriger, et pour préparer ensuite une bonne confession, pour pouvoir ensuite purifier tout cela. Donc essayez de vous voir tel que notre Seigneur vous voit, et tel que nous nous verrons, donc au moment où on franchira les portes de l'éternité. À ce moment-là, on se verra, eh bien, tel que nous sommes, et on verra notre Seigneur, on croisera son regard. Donc il faudrait le faire peut-être au cours de cette retraite, afin qu'elle produise eh bien, tout son fruit. Alors, dernier aspect que je signale quand même brièvement, mais ça me semble important de vous le dire, c'est que notre Seigneur est vraiment homme, il est homme à 100%, il est totalement homme, il est l'homme parfait, l'homme le plus beau, le plus intelligent, le plus bon, le plus parfait, enfin voilà, qui possède toutes les vertus. Et en même temps, il est réellement Dieu. Il est Dieu à 100%. Il n'est pas aussi, voilà. Il est réellement Dieu et Dieu à 100%. Et parce qu'il est Dieu, eh bien, il y aura des moments dans votre vie où il va réagir en Dieu, voyez. Parce que si je vois que l'aspect notre Seigneur homme, c'est très beau, bien sûr, et c'est très touchant, et c'est à notre niveau, et on est content. Mais sachez qu'il y aura des moments dans votre vie, et il y en aura aussi dans la mienne, hein, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres, où notre Seigneur, eh bien, il réagira en Dieu, voyez. Et à ce moment-là, alors nous, on est un peu perdu, hein. Donc on est un peu paumé. Oui. Donc il ne faut pas que vous en soyez surpris, si vous voulez, parce que je pense que si on humanise trop notre Seigneur, on ne l'humanisera jamais trop, parce qu'il est réellement homme, et homme à 100%, encore une fois, mais si on ne voit que l'aspect humain en lui, lorsqu'il se manifeste sous l'aspect divin, on est perdu, vous voyez. Et on sera nécessairement perdu, mais je dirais qu'on est quand même, en ce moment-là, plus rassuré, si vous voulez, quand on le sait, vous voyez. J'avais donné l'exemple, ici, il y a quelques années, d'une de nos fidèles, de fidèles ici de la région, qui est décédée maintenant, il y a 5 ans, d'un cancer, et à qui, justement, j'avais dit ce que je vais vous dire là, donc maintenant. J'avais fait une conférence chez ces personnes, donc je faisais une conférence à quelques ménages ici dans la région, donc tous les 2 mois à peu près. Donc je faisais la conférence chez eux, et je parle de la transcendance de Dieu. Et je dis, Dieu manifeste sa transcendance dans les épreuves. Alors je prends des exemples dans la Sainte Écriture, donc je dis par exemple, Eh bien, le silence de Dieu sur l'origine de l'enfant Jésus, donc vis-à-vis de Saint Joseph. Donc Saint Joseph, il voit la Sainte Vierge enceinte, il ne sait pas d'où vient l'enfant. C'était quand même pas difficile au bon Dieu de faire venir l'ange assez tôt pour le rassurer, pour lui dire « T'inquiète pas, elle est enceinte, mais en fait, l'enfant, il vient du Saint-Esprit. » Ce n'était pas difficile. Vous voyez. Eh bien, Saint Joseph, ça a duré des semaines, voire des mois, où il est resté en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? On voit bien qu'elle est sainte, mais elle est enceinte. » Enfin, voilà, donc ça pose problème. Et pour trouver la solution, c'était loin d'être évident. Puisqu'elle est enceinte, eh bien, je dois la renvoyer. Mais je ne peux pas renvoyer une femme comme ça, c'est impossible. Donc, si je ne la renvoie pas, j'obéis pas. Si je la renvoie, je la diffame. Donc, c'était un problème qui semblait insoluble. Et c'est quand il a décidé de la renvoyer en secret, et en ce moment-là, que Dieu, en ce moment-là, est venu. Non, non, surtout, pas touche, il n'y a pas de problème. Donc, il lui explique pourquoi. Donc, Dieu, si vous voulez, nous laisse souvent eh bien, à réfléchir à nous-mêmes, aux solutions, eh bien, à prier, à souffrir, à attendre. Avant qu'il nous donne ensuite la bonne solution, une fois qu'on a fait ce qu'on devait faire. Donc il faut éviter la solution providentialiste, de celui qui attend que tout lui tombe tout cuit du ciel, et la solution ensuite activiste, de celui qui veut la réponse tout de suite, immédiate, en disant « Allô, allô, mais il ne répond pas, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc il faut trouver toujours ce juste milieu. Un autre exemple, c'était donc la perte de l'enfant Jésus. Vous voyez, l'enfant Jésus qui reste au temple pendant 3 jours, mais c'est terrible ça. Quand vous voyez l'enfant Jésus qui avait 12 ans, donc l'enfant Jésus qui était l'enfant modèle, enfant sage, enfant obéissant, enfant toujours attentif, prévenant, très délicat avec la Sainte Vierge, avec Saint Joseph, il reste sans prévenir. Et comme 12 ans en plus, c'était l'âge du changement de statut légal, que les garçons au pèlerinage, eh bien, les hommes marchaient, les adolescents marchaient avec les hommes, les enfants marchaient avec les femmes. Il a 12 ans, donc il est à l'âge intermédiaire. Donc à l'aller, peut-être qu'il probablement était avec la Sainte Vierge. Après, donc il n'était plus là, donc on se dit bon, c'est pas grave. La Sainte Vierge a pensé parce que les femmes partaient d'un côté, les hommes de l'autre. Enfin, elles se retrouvaient ensuite au bivouac le soir, mais ils sortaient pas par la même porte de Jérusalem. Et du coup, eh bien, la Sainte Vierge était persuadée que l'enfant Jésus était avec Saint Joseph. Saint Joseph persuadé qu'il était, bien sûr, avec le conjoint. Et du coup, le soir, quand il n'a plus d'enfant Jésus, alors les autres qui se marraient en disant « Ah, nous, on a 8 enfants, toi, tu as un enfant, tu n'es même pas capable de le retrouver. Enfin, » vous imaginez un peu la scène. 3 jours d'angoisse, 3 jours d'inquiétude. Au bout de 3 jours, ils finissent par retrouver l'enfant Jésus. Écoutez bien, c'est Saint Luc qui parle. Eh bien, mon enfant... « Pourquoi avez-vous agi ainsi avec moi ? Voyez-vous, votre père et moi, nous vous cherchions tout angoissés. » Donc pourquoi, vous voyez ? Une épreuve nous tombe dessus, pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi moi ? Et sur le moment, pas de réponse, vous voyez ? Pas de réponse. Notre Seigneur dit « Ne savez-vous pas que je vais être aux affaires de mon père ?» Donc parce qu'il est Dieu, il ne répond pas directement à la question, il pose une nouvelle question. Vous voyez. Eh bien, Saint Luc précise que la Sainte Vierge n'a pas compris ni Saint Joseph d'ailleurs, ils n'ont pas compris la réponse qu'on venait de faire. Mais la Sainte Vierge conservait tout cela dans son cœur. Donc elle savait eh bien, suspendre son jugement et attendre le moment favorable. Eh bien, donc ça c'est un exemple. Après, notre Seigneur sur la croix, au paroxysme de la souffrance, quand Dieu se cache, 4e parole du Christ en croix, il y a 7 paroles, donc c'est la parole médiane, il y a 3 paroles avant, 3 paroles après. « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Donc là encore, Dieu le Père se cache, notre Seigneur lui-même, pourquoi ? Donc une grosse épreuve nous tombe dessus, pourquoi ? Et sur le moment, pas de réponse. Donc à ces familles, je faisais ces conférences le soir, c'était donc un mardi soir. Le mercredi, le lendemain, la dame qui nous accueillait chez elle a un mal sur le côté. Donc elle va voir le médecin qui lui dit d'aller voir à l'hôpital, pense que c'est un appendicite. En fait, c'était un cancer qu'elle avait. Et donc, elle a su donc très... quelques jours après, enfin assez rapidement. Et donc elle m'avait dit en ce moment-là, « Monsieur l'abbé, je ne pensais pas que j'allais passer aussi vite aux travaux pratiques. » Enfin, je ne souhaite pas pour vous que vous passiez aux travaux pratiques tout de suite, ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Mais ce que je veux dire ici, si vous voulez, c'est que pour terminer quand même sur cette conférence sur notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est très important pour nous de ne pas oublier que notre Seigneur, s'il est réellement homme, il est aussi réellement Dieu. Et parce qu'il est réellement Dieu, ne soyons pas surpris, eh bien, aussi à certains moments, eh bien, de sa manière d'agir à notre égard. On sait qu'il veut notre bien, mais comme cela est dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, je cite juste un passage d'Isaïe au chapitre 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. » Donc, autant le ciel aussi est au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc, faisons confiance à notre Seigneur, et nous savons en tout cas qu'il veut notre vrai bien. Alors maintenant, les vêpres sont facultatives, comme il y a déjà plusieurs conférences à la journée, donc les vêpres vont être chantées maintenant, mais donc, vous pouvez donc y assister, et si vous préférez souffler, eh bien vous pouvez souffler. Donc rendez-vous ensuite pour le repas à 19 h.